On va parler en tout cas de cette autre actualité, l'indignation après le départ d'un proviseur menacé de mort. Il avait été menacé de mort sur les réseaux sociaux après une altercation avec une élève à qui il avait demandé d'enlever son voile. Il a été reçu cet après-midi à Matignon par le Premier ministre et la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Et ce soir, le Premier ministre annonce que l'État allait porter plainte contre l'élève en question. On va revenir pour bien comprendre de quoi il s'agit avec Lisa Hadef sur les faits. Les faits remontent à la fin février. Que s'est-il passé le 28 février dernier, Lisa ?
Mercredi 28 février, en plein après-midi, à l'entrée du lycée Maurice Ravel de Paris, le proviseur reprend trois élèves sur leur tenue. Elles portent le voile. Il leur rappelle donc la loi qui interdit les signes religieux ostentatoires dans l'enceinte d'un établissement scolaire et leur demande effectivement de retirer leur voile. L'une des trois élèves ignore le proviseur. Elle est majeure, elle est scolarisée en BTS. Selon la version du ministère de l'Éducation nationale, le proviseur l'entraîne vers la sortie. L'étudiante résiste, alors le proviseur se retire et la police intervient. Selon la version de l'Académie de Paris, le proviseur prend l'étudiante par l'épaule et lui attrape le bras. Elle tutoie son directeur qui se retire pour ne pas envenimer la situation. Voici maintenant la version de l'étudiante voilée. Elle dit qu'elle est dans la cour de récréation et qu'elle enfile un bonnet pour se préparer à mettre son foulard une fois à l'extérieur de l'école. Selon elle, le proviseur intervient pour lui faire enlever ce bonnet. Il m'a crié dessus, je lui ai dit oui, je vais l'enlever. Il me dit enlève-le. Il m'a poussé violemment, il m'a mis un coup violent au niveau du bras. Deux jours après cette altercation, des élèves bloquent le lycée et demandent la démission du proviseur. Les cours sont suspendus. Elle porte plainte contre son proviseur pour violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail. Le proviseur lui porte plainte pour acte d'intimidation envers une personne participant à l'exécution d'une mission de service public pour obtenir une dérogation aux règles régissant ce service. La plainte de l'étudiante est classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée. Depuis sur Internet, le proviseur reçoit des menaces de mort. Le ministre de l'Éducation nationale annonce que deux individus identifiés comme à l'origine des menaces pourtant sans lien avec l'établissement ont été interpellés. L'un d'eux est un homme de 26 ans qui est originaire des Hauts-de-Seine et il doit d'ailleurs être jugé le 23 avril prochain à Paris. Et c'est là que le proviseur quitte son poste pour, dit-il, des raisons de sécurité, alors que le rectorat de son côté évoque des convenances personnelles et un départ anticipé en retraite découlant des derniers événements. Fin de citation.
Merci beaucoup Lisa. Oui, j'aimerais revenir là-dessus. C'est intéressant parce que lui, dans la lettre qu'il a adressée aux enseignants, à l'établissement, il affirme quitter ses fonctions pour des raisons de sécurité, mais effectivement, c'est pas tout à fait confirmé par le rectorat qui invoque des convenances personnelles, une retraite anticipée. Quelles sont les vraies raisons ?
Non, mais il y a clairement une ambiguïté, si vous voulez, sur qui est à l'origine de cette décision de partir. C'est-à-dire que vous avez le rectorat qui dit que c'est lui qui a souhaité partir et qu'ensuite il a fallu trouver la bonne voie de sortie et que la voie de sortie qui lui a été proposée, c'est en effet un départ à la retraite anticipée puisqu'il était à quelques mois de la retraite. Ça, c'est la version officielle du rectorat. Mais là, en ce moment, ce proviseur dit qu'en fait, il a été poussé vers la sortie parce qu'on lui a dit qu'on ne pouvait pas assurer sa sécurité et que donc il a été au fond contraint à cette démission et à ce départ en catimini. Donc Gabriel Attal d'ailleurs, je sais pas si vous avez noté sur TF1 ce soir, quand il a parlé de ce proviseur, il a dit il a décidé, puis ensuite il s'est repris et il a dit certains lui ont conseillé de partir un peu plus tôt pour des raisons de sécurité. Mais c'est très important de savoir au fond si c'est lui qui a voulu partir ou si c'est l'institution, c'est-à-dire l'éducation nationale, et à travers l'éducation nationale, la République, qui a dit à un de ses agents immensément important, puisqu'un professeur, un proviseur, lui a dit, en fait, il faut partir parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité d'un de nos agents. Ça s'appelle, en français c'est très simple, ça s'appelle une faillite, une démission, une capitulation. C'est-à-dire que c'est pas seulement ce proviseur qui a démissionné, c'est la République qui démissionne en poussant vers la sortie un de ses agents qui ne peut
pas assurer
une fonction aussi essentielle que l'éducation de nos enfants.
Même s'il n'a pas été poussé vers la sortie, qu'il ne se sente pas en sécurité et qu'il décide de partir de lui-même,
et la démission, on est déjà dans l'échec.
C'est déjà un échec, Sylvain Mailleul.
Je pense effectivement la République est attaquée de façon très claire et depuis de nombreuses années. Ça fait 20 ans qu'il y a quand même une loi qui aujourd'hui interdit les signes religieux au sein des établissements scolaires et on constate que 20 ans après, eh bien finalement, on a encore du mal à faire appliquer cette loi. Alors ensuite, je pense que le gouvernement a dû réagir un peu comme il a pu avec les moyens qu'il avait, c'est-à-dire aujourd'hui, on veut éviter impérativement qu'il y ait un nouvel attentat dans un établissement scolaire en France et donc par conséquent, on va bien évidemment empêcher que ça se produise. La solution qu'on trouve aujourd'hui, c'est
de faire partir la victime.
À un collègue, effectivement.
Mais c'est donner raison à ceux qui demandent sa démission. Il y a eu des manifestations pour demander la démission de ce proviseur et à la fin, que se passe-t-il ? Eh bien, on donne raison à ces manifestants en poussant
ce proviseur à la démission. Qui aujourd'hui, certains regrettent un peu ce qui se passe, mais enfin, il y avait des élèves dans la manifestation quand même.
Sylvain Mailleul.
Samuel Mailleul.
Samuel, pardonnez-moi, je m'appelle Sylvain, pardon.
Aucun problème, vous inquiétez pas.
Samuel Mailleul.
Oui, non, mais effectivement, je suis d'accord. Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, la République a du mal à faire respecter au sein de ses établissements scolaires une loi qui est pourtant fondamentale, la loi de la laïcité, et qui doit s'appliquer aujourd'hui sans contestation. Donc, c'est une défaite, j'ai envie de dire, de la République d'une manière générale, parce que la République est attaquée, elle est attaquée en permanence, notamment sur ce sujet-là. Et il faut, à mon avis, faire encore plus de pédagogie pour expliquer, pour convaincre et surtout être relativement ferme pour que cette loi s'applique sans aucune contestation possible.
Et pour l'instant, on en est encore loin. Mais quand même, Ségolène Royal, là, en gros, la situation, c'est un professeur menacé et c'est lui qui part. C'est la victime qui part.
Parce que je pense que d'abord, la République n'est pas en faillite, contrairement, je pense, je suis en total désaccord avec ce constat. La preuve, c'est que maintenant, les règles sont très claires sur l'interdiction des habits religieux à l'école. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui a été acquis fermement.
Mais là, c'est un échec quand même, non?
Mais je pense que la préoccupation de sécurité a primé. Et à qui peut-on reprocher à l'État de protéger un proviseur qui est menacé?
Mais le protéger en faisant partir?
Il lui serait arrivé, parce qu'il est aussi d'accord pour ça. Mais l'élève aussi, j'espère, va quitter l'établissement.
Elle a quitté l'établissement.
Il y a une plainte contre elle. Mais moi, je voudrais rendre hommage quand même à tous ceux qui sont en première ligne, justement, du service public de l'éducation nationale, dans ce combat de la laïcité. Et puis rappeler aussi aux jeunes filles, au fond, que à l'échelle de la planète, dans certains pays, les filles sont assassinées parce qu'elles veulent enlever leur voile. Vous voyez, à l'âge de l'adolescence, on est provocateur, on veut s'habiller comme c'est interdit, etc. Mais non, le voile, c'est le symbole de l'infériorité des femmes, même si on peut le respecter quand c'était une coutume ou une habitude. Mais pour les jeunes filles, il faut qu'elles sachent que dans certains pays, les filles se font assassiner quand elles font en Iran, quand elles enlèvent leur voile. Et que souvent, le voile ou le voile intégral, c'est aussi le synonyme d'interdiction pour les filles d'aller à l'école. C'est l'interdiction pour les filles de travailler, c'est l'interdiction pour les filles de gagner leur vie, c'est le pouvoir totalitaire du mari qui a droit de vie et de mort sur les femmes. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est dans cet éveil des consciences aussi, il y a un travail à faire pour que justement ces provocations n'interviennent plus. Et enfin, moi qui ai été ministre de l'enseignement scolaire, laisser seul un proviseur pour régler ses problèmes à l'entrée d'un lycée, c'est un problème. Et je trouve qu'à l'entrée des lycées, il devrait y avoir des auxiliaires de la police qui soient là, puisque c'est finalement un règlement de police pour faire respecter la loi, et que ce ne soit pas aux proviseurs qui ont des missions éducatives
devant
avant
tous les établissements.
Mais pourquoi pas? Là où il y a des difficultés, là où il y a des problèmes, là où il y a des provocations, il y a des commissariats de police dans tous les quartiers. Et donc, il y a des auxiliaires, des commissariats de police à l'entrée des lycées pour à la fois, parce qu'il y en a déjà beaucoup qui règlent les problèmes de sécurité ou qui empêchent les trafics de drogue devant les lycées, etc. Et qui pourraient, là aussi, faire respecter la réglementation avant d'entrer dans le lycée.
Alors, je vous le disais, on est avec Florence Bergeau-Baclair. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment vous voyez les choses? C'est une défaite de l'État face à une certaine mouvance, à la mouvance islamiste. Quelle est votre interprétation?
Alors, je dois dire que quand j'entends Madame Royal, j'ai l'impression d'être revenue 35 ou 40 ans en arrière. Cette question du voile est posée exactement de la même manière qu'elle était posée il y a 30 ou 40 ans. Donc, ça veut dire que nous n'avons rien appris, rien compris, malgré les multiples travaux qui ont été faits. On a traité le symptôme le voile, mais pas les causes, c'est-à-dire le frérisme et les frères musulmans. Le voile nous vient des frères musulmans qui sont à l'origine de cette idéologie que j'ai appelée frérisme et qui est très diffuse, très influente dans le champ islamique aujourd'hui. Si vous voulez, le frérisme est axé sur la mission, c'est un projet théocratique d'instauration d'une société islamique à très long terme et qui agit de façon méthodique selon plusieurs programmes. Donc on connaît ces programmes, on connaît exactement leur modus operandi maintenant, et cette idéologie ne radicalise pas les individus. Il nous mène une guerre de très basse intensité et de temps en temps avec des pics très violents. Cette idéologie a plusieurs cordes à son arc. Elle utilise bien sûr l'influence, l'intimidation, le harcèlement, voire la violence extrême, comme la décapitation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le voile, c'est quoi ? Ce n'est pas un signe, c'est un élément essentiel, c'est la norme, en fait, de la société islamique. Il n'existe pas de société islamique sans voile. Donc, il faut absolument, pour les frères, l'imposer à l'école et sinon retirer en fait l'ensemble des jeunes musulmans de l'école publique pour qu'ils soient protégés de la laïcité. Parce qu'évidemment, la sécularisation, pas que la laïcité à la française, mais de façon générale, la sécularisation fait très peur aux frères musulmans parce qu'il ne permet pas pour eux d'instaurer cette société islamique. Alors tout ça, ça a été théorisé, hein, je raconte ça dans mon livre, notamment par l'ISESCO, qui est ce bras culturel de l'Organisation de la coopération islamique et qui, dans une stratégie qu'elle appelle donc stratégie de l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique, qui a été publiée au Qatar en l'an 2000, le Qatar qui est l'un des principaux financeurs hein, des frères musulmans dans le monde, ils expliquent très bien comment ils vont faire pour retirer les enfants de l'école publique. Mmh. Et le voile fait partie, bien sûr, de cette stratégie. Donc,
et là-dessus, oui. Mais sur ce qu'on apprend là ce soir, qu'il a pris la décision donc de quitter ses fonctions par sécurité pour lui, pour l'établissement, on a quand même le sentiment qu'il, voilà, c'est un peu contre son gré qu'il doit le faire, que ce proviseur doit quitter l'établissement qu'il dirigeait. Vous le voyez comment ça ?
Moi, je ne sais pas. Je pense qu'un fonctionnaire peut parfaitement rester en fonction. Je ne sais pas qui l'a conseillé, sur quelle base il a pris sa décision. Ce que moi, je constate depuis la sortie de mon livre, et je vais un petit peu partout en France, c'est que la peur s'est installée. Elle est très profonde, elle est très ancrée. Et effectivement, quand on ne comprend pas le phénomène, eh bien, il y a de quoi effectivement avoir peur. Moi-même qui suis sous protection policière depuis un an et qui n'ai plus accès à l'université, je me sens effectivement un peu seule. J'ai l'impression que les études sur l'islamisme et notamment sur le frérisme sont devenues un grand tabou et que donc on ne sera plus en capacité d'expliquer ce qui nous arrive. Et effectivement, ça, c'est inquiétant. Et je pense que les Français le sentent. Ils sentent qu'ils ne sont pas bien protégés et cela peut induire effectivement des comportements de retrait.
Cette peur, Samuel Mayol, vous l'avez ressentie, vous ? Je rappelle que vous avez été longtemps directeur de l'IUT de marketing de Saint-Denis et vous avez reçu, vous aussi, des menaces de mort parce que vous défendiez, vous vouliez faire respecter la loi et la laïcité, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Voilà, exactement. C'est arrivé il y a quelques années maintenant et donc j'ai mis fin à des pratiques qui me semblaient être contraires au principe donc de laïcité à l'époque, comme l'a expliqué justement Florence à l'instant. Je me suis senti vraiment seul parce que moi, à l'époque, je n'avais pas eu de soutien du tout. Je n'avais pas eu de soutien ni de la part de l'État.
C'était quand ?
C'était dans les années 2013-2015, exactement. Je n'avais pas eu de soutien ni à l'époque des autorités de tutelle qui étaient le président de mon université. Au niveau de l'État, c'était très, très fragile. Hein. À l'époque, le Premier ministre m'avait soutenu, c'était Manuel Valls. Mmh. Mais c'était bien le seul qui l'avait véritablement fait. Et je m'étais en plus même retrouvé suspendu de mes fonctions puisqu'on m'avait accusé finalement d'avoir dénoncé tout ça. Donc effectivement, moi je peux comprendre hein, que quand on se retrouve responsable d'un établissement scolaire, à un moment donné, on dise mais stop quoi, voilà, est-ce que lui est à quelques mois de la retraite, si sa décision c'est lui qui l'a prise, on peut que la respecter, parce que un collègue qui aujourd'hui est menacé de mort uniquement pour avoir fait respecter la loi, c'est juste inacceptable et voilà, donc on peut comprendre cela. Là où je disais que c'était une faillite de la République, c'est pas par rapport aux décisions qui viennent d'être prises, même si à un moment donné le gouvernement ou le rectorat lui a fait comprendre que c'était plus prudent pour lui de se retirer, on peut au moins considérer qu'ils ont essayé de gérer, contrairement à ce qui s'était passé d'ailleurs pour Samuel Paty, où il n'a pas du tout eu de soutien, là au moins il y a eu une réaction. Par contre, ça interroge, et c'est un petit peu ce que dit Madame Berger-Blackler, ça veut dire que ça interroge sur le fonctionnement de l'État et de la République. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en 2024, on puisse encore être dans une situation où des fonctionnaires, parce qu'ils font respecter la loi, sont menacés? C'est ça qui n'est pas acceptable.
Et justement, il a voulu serrer la vis aussi là-dessus, Gabriel Attal, ce soir chez nos confrères de TF1. On le rappelle, donc ce proviseur menacé de mort sur les réseaux sociaux après une altercation avec une élève à qui il avait demandé d'enlever le voile. Ce soir, le Premier ministre annonce que l'État va porter plainte.
C'est très bien.
Contre l'élève en question. On écoute le Premier ministre.
Le proviseur du lycée Ravel, que j'ai reçu, a tout simplement fait son travail. Il a demandé à une jeune femme d'appliquer la loi, c'est-à-dire de retirer son voile dans l'établissement scolaire. Cette jeune femme l'a refusé, et pire encore, elle a cherché à l'intimider en l'accusant de l'avoir molestée ou de violence. Ces accusations qui ont ensuite été relayées sur les réseaux sociaux, et je le dis ici, y compris par certains élus, je pense notamment à une députée de la France Insoumise, ont donné lieu à des menaces de mort à l'endroit de ce proviseur. Et donc j'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse.
L'État qui porte plainte contre cette jeune femme. Florence Bergeau-Baclair, vous êtes toujours avec nous. Vous saluez cette décision du Premier ministre ?
Oui, bien sûr. Je pense même que les cadres scolaires ne doivent absolument pas intervenir. Tout le monde est au courant que le voile ne doit pas être porté dans un établissement scolaire. Donc, quand ça se passe, ce sont les forces de l'ordre qui doivent intervenir et ensuite la personne donc prise en main par la justice.
Anna Cabana, vous souhaitez réagir ?
Oui, alors, mais il a voulu marquer, si vous voulez, marquer le coup et envoyer un signal politique fort et surtout un signal qui venait contredire le signal envoyé par la démission du proviseur. Dit autrement, c'était important précisément que soit envoyé depuis le sommet de l'État, le signe qu'il n'y avait pas de démission de l'État et que l'État restait fort sa volonté de faire respecter les principes de la République et la laïcité. Donc c'était une façon de rééquilibrer parce que le message envoyé par le départ de ce proviseur n'avait pas été jugé extrêmement positif. Il faut savoir que ça aurait pas été la même histoire, Julie, si au lieu de conseiller à ce proviseur de partir à la retraite anticipée, on lui avait conseillé de se mettre en arrêt maladie. C'est-à-dire que là, l'institution a donné avec ce conseil, au fond, un signal politique qui était dangereux, et c'est précisément ça que Gabriel Attal a voulu essayer de rectifier un petit peu.
Je me tourne vers l'avocat sur ce plateau, Charles Consignard. Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais on se posait la question, ce qu'on a appris, cette information juste avant de prendre l'antenne, cette plainte qui pourrait être déposée par l'État contre cette jeune femme. On sait que la dénonciation calomnieuse, elle est punie de 5 ans de prison maximum et de 45 000 euros d'amende. On parle d'une mineure.
Elle est majeure
en BTS. Oui. Pardonnez-moi, mais est-ce que vraiment l'État peut porter plainte? On a une de nos sources qui nous dit que seule la victime peut déposer plainte et que l'État n'est pas la victime. Est-ce que vous avez la réponse sur ce sujet?
Oui, alors je trouve ça en effet un peu bizarre, mais il peut porter plainte aussi le proviseur. Je pense que comme il est fonctionnaire, ce qu'a voulu dire Gabriel Attal, c'est que il allait bénéficier de la protection fonctionnelle et porter plainte au nom, que l'État allait porter plainte au nom de ce fonctionnaire. Ça ne me paraît pas forcément extravagant. De toute manière, plainte ou pas, le procureur peut se saisir tout seul de ces faits. Je constate qu'on est dans un cas typique de dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse, c'est le fait d'imputer à quelqu'un, faussement, en sachant que c'est faux, la commission d'un crime ou d'un délit.
Oui, ça allait porter plainte.
Donc, et de le faire auprès d'une autorité capable de sanctionner. En l'occurrence, cette jeune femme avait porté plainte contre ce proviseur.
Plainte classée sans suite.
Oui, mais donc elle sachant que en fait ce pourquoi elle portait plainte était mensonger. Enfin ça c'est l'enquête qui le dira. Okay. Elle est tout à fait. Oui, mais il va y avoir une nouvelle enquête avec la plainte pour dénonciation calomnieuse. Elle est tout à fait dans le cas de ce délit. Après bon, enfin c'est très bien de déposer cette plainte.
Mais Charles, ça peut peut-être dissuader des possibles élèves. Je voulais te dire se plaindre.
Malheureusement, ça ne dissuadera personne. Le mouvement est très fort. Le mouvement d'islamisation de la jeunesse en France, il est très fort. Cette espèce de contre-société qui existe dans notre pays, qui a obéi à des codes complètement différents, des codes français traditionnels, c'est extrêmement fort. Ça se répand sur Instagram, sur toutes les messageries. C'est des gens qui sont en rupture complète avec la société française que défendent ceux qui défendent la laïcité.
Était scolarisé quand même.
Je veux surtout pas tenir.
Et donc vous dites que cette plainte de l'État n'est pas dissuasive.
Mais moi je pense que autant l'interdiction de l'abaya, je pense que c'était efficace et de grande ampleur. Et je pense que c'est des mesures beaucoup plus larges en fait qu'il faut prendre. Et je pense aussi qu'il faut qu'on se demande. Vous savez, moi j'ai défendu même comme avocat des jeunes qui étaient radicalisés dans l'islam radical, y compris au point de vouloir partir en Syrie, etc. Et j'étais frappé de voir qu'au fond, dans leur société, dans leur milieu, avec leur niveau socioculturel, quasiment, ils ne se sentaient pas d'autres voies attirantes pour eux que celle d'aller rejoindre les rangs de Daesh ou de se radicaliser, de rentrer dans toute cette espèce de contre-culture. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui doit nous interroger. Comment ça se fait qu'en France, finalement, ils se sentent à ce point paumés dans la société française pour avoir besoin de se raccrocher à ce monstre qu'est l'islamisme.
Florence Bergeau-Bacler est toujours avec nous. Comment on explique ce phénomène que décrit Charles Consigny et quelles sont les solutions?
Je crois qu'il faut renverser un petit peu les choses. Il y a quelque chose qui les attire vers cette idéologie. Et ce n'est pas seulement parce qu'ils ne trouvent qu'ils sont paumés ou au contraire, ils sont très structurés par une idéologie qui les prend très, très, très jeunes. Donc, ils sont, comme je le disais, pris en main souvent par les institutions ou les écoles fréristes qui leur donnent un cap, une raison de vivre, presque une recette pour la vie de tous les jours. Et donc, ils se retrouvent dans des environnements où il y a cette ferveur collective. En ce moment, c'est le mois de Ramadan, donc c'est particulièrement fort. Et quand ils vont à l'école, c'est un autre univers. Et donc, je pense qu'il faut être plus attentif à cette vie qu'ils mènent, à ces deux vies, en fait, ces doubles vies qu'ils mènent. Et certains veulent faire mieux et plus vite que les autres, être encore plus dans la voie de Dieu, hein, comme ils disent, et de temps en temps, s'attaquer à quelqu'un qu'ils jugent mécréant, mauvais musulman. Hein, je parle des les musulmans sont les premiers à subir cette pression, il faut bien le comprendre. Et ensuite, les non-musulmans aujourd'hui subissent cette pression. Vous voyez bien que aujourd'hui, nous ne pouvons plus. Il y a des choses qu'on ne peut plus voir, qu'on ne peut plus dire, des salles de cinéma qui ne passent pas certains films. Donc il y a une autocensure qui s'est installée dans la société. Il faut se rappeler que depuis 20 ou 30 ans, sous l'influence des islamistes, les musulmans subissent cette pression.
Merci beaucoup Florence Bergeau-Bacler. Sur les solutions, Samuel Mayol.
Oui, je veux juste réagir à ce qu'a dit Maître Consigny. Concrètement, aujourd'hui, on peut considérer que la victime, c'est effectivement le proviseur, et c'est bien évidemment lui la première victime, mais à travers lui, c'est quand même la République qui est la victime, c'est lui, c'est la République qui est attaquée. Et je ne comprends pas que, pour défendre un de ses fonctionnaires, la République ne puisse pas porter plainte contre les personnes qui profèrent des menaces contre ces fonctionnaires. Je pense que si, à un moment donné, on doit inventer une nouvelle loi, ben, c'est donner la possibilité au gouvernement de porter plainte pour défendre les fonctionnaires. Souvent, les fonctionnaires qui sont attaqués se retrouvent bien seuls, peut-être d'ailleurs aussi pour des questions juridiques, parce que précisément, on peut pas les soutenir, notamment au niveau du tribunal. La protection fonctionnelle, c'est bien, mais ça apporte uniquement les remboursements des frais d'avocat et pas grand-chose de plus. Hein. En réalité, aujourd'hui, c'est déjà pas mal.
On peut dire que c'est déjà pas mal.
Effectivement, c'est déjà pas mal. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que l'État puisse porter plainte contre les personnes qui profèrent des menaces contre les fonctionnaires.
Ça existe.
Merci.
La procédure est tout à fait régulière. C'est pas porter plainte exactement, mais c'est le pouvoir de transmission, article 40 oui. du code de procédure pénale, c'est-à-dire la saisine du parquet, du procureur de la République pour tous les crimes et délits dont l'État est témoin et dont il a connaissance. Comme tout un chacun, toute personne a le devoir même de saisir le parquet lorsque il est en présence d'un crime ou d'un délit. Donc la procédure est parfaitement régulière. Et en plus, il y a la protection, en effet, des fonctionnaires. Donc ça, c'est quand même une protection qui est très, très importante. Mais c'est vrai que l'aléa, c'est de savoir s'il est parti de son plein gré. À mon avis, c'est quand même la réalité. Et si l'urgence n'a pas été justement d'assurer sa protection en attendant de remettre les choses au clair.
Voilà.
Mais d'expérience, ce que je peux dire, c'est, vous savez ce que c'est le plus efficace ? C'est la sanction financière. C'est l'amende. C'est une grosse amende. C'est-à-dire, si on disait maintenant tous les élèves qui se présentent à la porte d'un lycée en faisant le forcing pour rentrer avec une tenue religieuse, c'est tant d'amendes. À ce moment-là, vous auriez des familles qui feraient pression pour ne pas payer l'amende sur les enfants en disant « Maintenant, tu te calmes et tu respectes le règlement. » Et je vous assure que ça serait très efficace.
3 000 euros d'amende, claque.
Il n'y en a plus un qui se présente au lycée avec une tenue religieuse.